L'inconnu était immense. C'était... Personne ne connaissait cette partie du territoire. Vous avez le sentiment, quand même, au début, de vous jeter dans la gueule du loup. Je veux dire, quelque part, il y a cet horizon qui est sans fin, dans lequel il faut avancer au milieu d'un monde qui ne veut pas de vous. Ce que vous apprenez très très vite dans ce genre de situation, c'est le pouvoir de l'esprit sur votre corps.
Bienvenue dans Les Explorateurs. Les femmes et les hommes que nous écoutons ici ont consacré leur vie à explorer le monde. Ils ont un jour décidé de se mettre en danger, par goût de l'aventure, ou pour fuir une vie toute tracée. Pendant une trentaine de minutes, nous voyagerons avec eux. Elle s'est fait connaître en 1992 sur le plus haut sommet du monde. Alpiniste, fille de bonne famille, Laurence de la Ferrière voulait devenir la première femme à gravir l'Everest sans oxygène artificiel. Ce jour-là, à 8700 mètres d'altitude, la défaillance d'un de ses partenaires de cordée l'oblige à rebrousser chemin. Et c'est un univers plus hostile, plus inatteignable encore, qui lui donnera l'occasion de solder son échec. À 40 ans, l'alpiniste devient exploratrice polaire. Laurence de la Ferrière est la première et la seule femme au monde à avoir intégralement traversé l'Antarctique en solitaire. C'était à la fin des années 90 et son moyen à elle d'entrer en rébellion sociale. À 62 ans, c'est donc une exploratrice apaisée que Rémi Fier est allé rencontrer.
Bonjour Laurence de la Ferrière, nous sommes ici à Chamonix où vous habitez. La première question qui me vient à l'esprit, c'est: comment vous considérez-vous comme une exploratrice, une aventurière, une voyageuse ?
Bonjour. Avant tout, je pense comme une femme curieuse, fascinée par tout ce qui peut se trouver derrière l'horizon, qui sont les limites que je peux percevoir. Donc, c'est très personnel. Mais je pense que c'est avant tout ça. Alors évidemment, ça s'est illustré par des aventures, par des explorations, par des ascensions. Mais finalement, ça, ce n'était que des moyens de pouvoir combler une envie et quelque chose de très fort.
Cette curiosité, elle est née comment ?
Elle est née par une rébellion. Une rébellion face à mon environnement, face à mon milieu. C'est un milieu très aristocratique. Pas bourgeois particulièrement, mais aristocratique dans le sens où les règles étaient très lourdes et très rigides. Et c'était vraiment un format qui ne me correspondait pas du tout. Tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il existait un autre monde et que dans cet autre monde, j'avais des choses à faire, mais que je ne pouvais pas les faire avec les contraintes que l'on m'imposait. Donc, il a fallu, d'une certaine manière, que j'arrive à abattre les obstacles pour franchir justement ces limites et découvrir ce que je pouvais faire de ma vie ailleurs. Alors, oui, il y a eu un déclic vraiment très particulier qui a été à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai participé tout à fait par hasard à un stage d'alpinisme sur le versant italien du Mont Blanc. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Là, j'ai compris que c'était là où j'allais pouvoir faire ma vie. Bon, j'étais sportive de haut niveau en tant que gymnaste, très jeune. Donc j'avais une certaine facilité pour appréhender l'escalade en particulier. Et quand j'ai commencé à découvrir la haute montagne et l'alpinisme, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était excessivement difficile, qui était effrayant et en même temps complètement fascinant. Et ça m'ouvrait en fait une ouverture, enfin c'était une sorte d'ouverture sur cet inconnu vers lequel je tendais, mais que je n'arrivais pas à cerner. Et là, tout d'un coup, j'arrivais à mettre des mots, des images, des pensées sur quelque chose qui allait pouvoir faire partie de ma destinée. C'est vrai que j'ai fait mes armes dans les Alpes. Donc c'était merveilleux. J'ai rencontré des gens, des grimpeurs, des alpinistes qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que je puisse progresser. très vite, j'ai eu le sentiment que c'était un milieu quand même qui était trop restreint par rapport à la quête que je ressentais au fond de moi. Et complètement par hasard, un jour, je suis partie pour faire le Dolan. Et je me souviens encore de ces moments où j'arrive au refuge, c'est un demi-dôme qui est tout petit, et je rencontre un homme qui revenait de l'Himalaya. Et on était très peu, on devait être trois dans le refuge. Et là, pendant toute la nuit, en fait, il m'a raconté ses ascensions dans l'Himalaya. Et j'ai compris que c'était la manière dont j'allais pouvoir poursuivre mon chemin, allait se faire dans l'Himalaya. Parce que des 4000, on passait à 8000. Et puis parce que c'était quelque chose, un univers encore très peu connu. Hein, c'était dans les années 80, il n'y avait pas grand monde qui partait là-bas. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de complètement... toujours cette espèce d'antagonisme entre le fait d'être effrayé et fasciné. Mais en tous les cas, j'ai décidé que j'allais partir dans l'Himalaya. Plus je m'éloignais, et plus, d'une certaine manière... J'échappais aux influences et aux regards de ceux qui considéraient qu'ils savaient ce qui était bien pour moi. Donc de partir dans cet environnement qui n'était pas fait pour la femme en particulier, hein, il y avait très très peu de femmes dans les expéditions, c'était une manière de franchir un cap qui était très important dans ma progression.
Il y a ce passage vers la montagne et sa verticalité qui est une grande partie de votre jeunesse. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un deuxième déclic à un moment où vous laissez plutôt tomber cette verticalité pour vous dérouter sur une aventure un peu plus horizontale.
À partir du moment où j'ai assumé le fait de consacrer ma vie à gravir les sommets et à vivre avec ce contact intime, avec cette nature dans laquelle j'arrivais à m'exprimer, j'ai considéré qu'il était inacceptable d'utiliser des moyens artificiels. L'idée, c'était de tenter d'être la première femme au monde à gravir le sommet de l'Everest sans oxygène. Et j'ai tenté 5 fois. Et la dernière fois, donc je crois que c'était en 92, on était 3, bien loin de ce qui peut se passer aujourd'hui. Dans l'équipe, il y avait une personne qui avait de l'oxygène et qui a eu un problème avec son masque à oxygène, qui gelait et il n'arrivait plus à respirer de l'oxygène correctement. Je me souviens encore, on était vraiment sur le toit du monde. À droite, il y avait le Tibet, à gauche, il y avait le Népal. Et puis tout d'un coup, on me dit, il faut qu'on redescende. Et là, j'ai pas eu la force de braver cette décision. Et je suis redescendue. Je suis redescendue, je me souviens encore, je pleurais derrière mon masque et en me disant que j'aurais plus jamais la possibilité d'arriver aussi près du sommet de l'Everest sans oxygène dans des conditions pareilles. Et puis je suis rentrée en France avec vraiment un sentiment d'échec très très important. Avec l'impression que finalement, tout ce que j'avais fait ces dernières années, par révolte, mais en même temps, je m'étais construite, tout d'un coup, tout ça s'écroulait. Que j'avais plus de raison, que je savais plus quoi faire. Et après quelques temps, après avoir assumé le fait que, effectivement, j'avais échoué, je me suis dit, j'ai échoué avant tout parce que j'ai été sensible à l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc, je sens en moi des possibilités, des capacités que je ne suis pas parvenue à mettre en œuvre dans cette situation. Et donc, il faut que je parte seule dans le plus grand désert du monde. Donc, j'ai fait 2 expéditions en Antarctique. La première, je dirais que ça a été un peu une expédition test. La seconde a été une expédition incroyable. Là, vraiment, je suis allée très loin par rapport à l'exploration, par rapport à mes capacités physiques, psychologiques, par rapport au mental.
Est-ce qu'on peut parler d'un pouvoir de séduction de l'Antarctique, de ce continent inconnu, de ce grand désert blanc ?
Ah oui, 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 je pense qu'on peut parler de ça. On peut parler d'un pouvoir de, ouais, de séduction. Je n'avais jamais utilisé ce terme, mais je trouve qu'il est très juste. Un pouvoir de fascination. En fait, quelque part, vous allez mettre de la vie là où il n'y en a pas. Et du coup, ça vous donne aussi un sentiment de grande force et en même temps de très grande humilité, parce que vous êtes rien au milieu de cet environnement. Mais vous n'êtes rien, mais avec ce rien, vous allez être capable de faire quelque chose d'extraordinaire.
Parce qu'on parle aussi d'un monde silencieux. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il n'y a aucun bruit alors qu'il y a de la vie quand même, semble-t-il, là-bas? Est-ce qu'on croise des...
Non, non, il n'y a pas de vie. Au cœur de continent, il n'y a pas de vie possible. Il y a 4000 mètres d'épaisseur de glace. Les températures en hiver descendent aux alentours de moins 90 degrés Celsius. Il n'y a pas de vie possible. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vie humaine qu'il n'y a pas de vie. Il y a une vie minérale. Et donc, il y a des bruits. Il y a le bruit du vent, il y a le bruit de la glace, il y a votre propre bruit. En fait, l'Antarctique, c'est comme un immense miroir qui reflète ce que vous êtes et la vie que vous amenez sur le temps que ça dure. Vous vibrez au rythme des claquements de votre voile quand vous les utilisez pour pouvoir progresser. Vous vibrez au claquement de la toile de votre tente. Et là, vous comprenez si la tempête arrive, si le sens du vent. Vous vibrez en sentant vos skis glisser sur la glace. Vous comprenez si vous êtes sur une crevasse, s'il y a des obstacles. Et vous faites de ce que vous entendez un monde dont vous vous imprégnez, qui fait de vous pratiquement un animal de l'Antarctique, mais qui vous permet de progresser et d'exister momentanément en accord et en harmonie avec cet environnement.
La préparation d'un tel voyage, vous avez commencé à en parler, vous avez parlé de la voile, de la tente. Comment on s'y prépare et quels choix on fait en fait pour se déplacer notamment ?
Alors, tout dépend de l'endroit que vous décidez parcourir. La première expédition, je suis partie d'Herkul Inlet, donc du pied de la péninsule, pour aller au pôle sud. Et en partant de la côte jusqu'au pôle sud, j'avais les vents contre moi. Donc, je n'ai pas pu utiliser les voiles. Je me suis contentée de tirer mon traîneau avec des petites peaux de phoque sur les skis. Et donc, l'entraînement, bon, en fait, c'était un entraînement auquel j'avais assez l'habitude, puisque c'était de faire du ski de randonnée, c'était de tracter des pneus pour renforcer ma ceinture au niveau abdominal et au niveau des dorsales, c'était de faire des portages. Bon, c'était des choses qui étaient assez proches de ce que j'avais connu dans le cadre des expéditions, en particulier dans l'Himalaya. Donc ça, c'était assez classique. Par contre, dans la deuxième expédition que j'ai réalisée en Antarctique, donc dont le point de départ était le pôle sud, et cette fois pour aller tout à fait à l'opposé du continent, en face de la Tasmanie, cette fois j'avais les vents qui m'étaient favorables, et donc j'ai décidé d'utiliser les voiles. Et ces voiles, je les ai testées en traversant le Groenland en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, en fait, bon, ça date quand même d'une vingtaine d'années, c'était le tout début des voiles. Ces voiles qui sont à la fois qui vous permettent de franchir un nombre de kilomètres nettement supérieur, mais qui sont très compliquées à mettre en œuvre et dangereuses.
Donc les skis pour progresser, les voiles pour avancer aussi, et puis il y a ce fameux traîneau,
ouais,
qui est assez symbolique à nos yeux, parce que c'est à la fois quelque chose qu'on tracte, donc c'est un poids, et puis en même temps, c'est quelque chose qui est là pour vous aider, vous sauver, vous soutenir.
Bah, c'est ma maison, hein.
Est-ce qu'il y a un rapport qui se crée? Est-ce que ça devient quelque chose, une extension de son corps?
Complètement. Complètement. D'ailleurs, quand on est seul, moi, je finissais par parler avec mes voiles et mon traîneau. Non pas parce que je perdais la tête, mais juste parce que c'était... D'abord, comme vous disiez, c'était ma vie. Je veux dire, je perdais mon traîneau, j'étais morte. Je perdais mes voiles, j'étais pas bien non plus. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on... il est nécessaire de créer un lien avec ce qui vous entoure, donc que ça soit le matériel, mais aussi les éléments extérieurs, le vent, le froid, les crevasses. Et quelque part, vous leur... Moi, il y a des moments, j'aurais dit, ok, allez, maintenant j'ai quand même fait quelque chose de bien, aide-moi. Je parlais au vent. J'ai dit, mets-toi dans le bon sens. Il faut absolument que j'avance un peu plus vite. Donc, il y a une espèce de dialogue qui s'instaure, qui fait que finalement, comme vous disiez, le traîneau est une extension de soi, comme la voile, et il faut qu'on fasse un tout. Et finalement, vous vous apercevez que par cette espèce d'harmonie que vous créez momentanément, qui est un peu qui sort de l'ordinaire, vous percevez le froid ou le vent en particulier, ou même le poids du traîneau, comme étant des alliés. Vous partez vraiment avec ce qui vous semble essentiel. En même temps, vous savez que vous n'avez pas tout et qu'il faudra faire avec. Donc dedans, il y a de quoi se nourrir, donc des rations de nourriture. Chaque ration était emballée dans un sac en plastique. Il y avait à peu près l'équivalent de 6000 à 7000 calories par jour. Donc essentiellement basé sur la graisse, parce que c'est ce qui apporte le plus de calories. Si vous regardez comment font les Esquimaux, ils se nourrissent essentiellement de graisse.
Du saumon à la nette. Ça va être un régal. Voilà mon super repas. Est-ce que c'est bon? Même pour ça, je reviendrai en Antarctique.
Le soir, le seul moment où vous pouvez avoir une petite source de chaleur extérieure, c'est le moment où vous avez préparé votre gamelle. Moi, je la posais sur mes genoux et je ressentais cette chaleur à travers le sac de couchage et les différentes épaisseurs, et en particulier celle de ma combinaison en UV. Mais je sentais cette source de chaleur, c'était quelque chose aussi de merveilleux. Et je dégustais mon repas autant que je dégustais cette source de chaleur. Ensuite, il y a tout ce qui vous permet de dormir, de vous nourrir. Donc un sac de couchage très particulier, des matelas. En même temps, vous ne pouvez pas complètement vous protéger du froid. Quand vous êtes exposé à des températures qui font entre moins 30 et moins 55 à l'abri pendant si longtemps, il va falloir vivre avec le froid. Et donc accepter de grelotter pendant la nuit en sachant que lorsque vous grelottez, c'est une réaction automatique de vos muscles et qui vous apporte un peu de chaleur. Donc c'est inconfortable, mais c'est pratiquement indispensable. Et puis, ce qui était aussi très très important, c'était tout ce qui était nécessaire pour écrire mon journal. Parce que j'étais vraiment intimement convaincue que tout ce que je pouvais dire pendant cette expédition, je ne pourrais jamais le redire au retour. Parce qu'il y a vraiment une espèce d'interaction directe qui fait que tout ce que vous ressentez, tout ce à quoi vous pensez, une fois de retour, vous rentrez dans un autre monde et c'est terminé. J'avais une petite pharmacie de secours, une petite pharmacie qui n'était pas lourde, qui devait peser à peu près 1 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il peut y avoir un accident. Mais l'Antarctique, c'est un univers qui est complètement stérile. Il n'y a pas de vie. Donc les seules bactéries ou microbes que vous apportez, ce sont les vôtres. Donc très vite, il n'y a plus grand-chose. Donc le risque d'un rhume ou d'une infection, en fait, est assez rare.
Deuxième chose, d'enlever mes chaussettes mouillées. J'ai les pieds bien blancs, il va falloir que je les réchauffe. Si je ne veux pas. Oh putain, des petites gelures. Pas trop grave pour l'instant, mais il faut que je me protège.
La seule chose auquel j'ai été confrontée, qui aurait pu très mal tourner, c'est que j'ai eu des gelures très graves qui se sont infectées superficiellement, mais qui n'ont jamais dégénéré.
Il va falloir que je fasse quelque chose pour mes pieds. Donc, je vais utiliser le sac des batteries au lithium pour essayer de me faire des chaussettes. J'espère franchement que ce que j'ai fait va me permettre de pas aggraver la situation. Parce que là, franchement, ça devient grave.
Je n'ai pas utilisé mon traitement antibiotique parce que c'est arrivé au tout début de mon expédition et que je me disais que si j'utilisais mon traitement antibiotique dès le début, ben j'aurais plus rien après. Donc, je n'ai pas utilisé.
Ça veut dire qu'il y a des moments de grande souffrance ou de grande douleur dans des expéditions comme ça ?
Oui, il y a des moments de très grande douleur. Et vous apprenez, pour pouvoir les supporter, à tenir cette douleur, cette souffrance à distance. Ce que vous apprenez très très vite dans ce genre de situation, c'est le pouvoir de l'esprit sur votre corps.
Cette progression, elle se manifestait comment ? Est-ce que vous avez un nombre de kilomètres, par exemple, tous les jours à effectuer ?
C'était plutôt au niveau du timing, en fait. Je me suis créée une sorte de discipline qui était adaptée à l'environnement, en me disant, pour pouvoir tenir le coup pendant 3 mois, il faut que j'arrive à avoir un temps de repos, un temps de sommeil et un temps de progression. Donc j'avais décidé que je pouvais progresser entre 10 et 12 heures par jour. Et c'était ça qui était important.
J'ai marché 8 heures. Cinquième jour. Première fois où je marche à peu près correctement. On va voir combien de kilomètres ça fait, mais bon. 6,8. C'est pas possible. C'est injuste. Pourquoi j'y arrive pas ?
Le premier jour, j'ai fait 700 mètres. Le deuxième jour, j'ai dû faire 1 km. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai progressé. Et un jour, j'ai fait 100 km dans la journée. Là, je me suis dit, ouais, tu tiens le bon bout. La chose la plus importante, c'était d'installer ma tente en sécurité. Donc, je montais la tente le plus rapidement possible parce qu'il y a toujours du vent. On est toujours plus ou moins dans le blizzard. Donc en fait, on est très vite enfoui par la neige. Et après, le vent, en utilisant mon traîneau, fabriquait une sorte de congère des deux côtés. Et là encore, c'est la preuve que l'individu existe en harmonie avec la nature. C'est que les premiers jours, j'essayais de me protéger totalement du vent. Donc je faisais une sorte d'armure autour de ma tente. Et puis, le vent, transportant la neige, retombait sur ma tente et je finissais enterrée sous la neige. Alors qu'en acceptant d'être protégée et de jouer et de comprendre ce que le vent pouvait m'apporter, il me faisait des congères des deux côtés qui ne touchaient jamais la tente et qui étaient la meilleure protection possible puisqu'elle était faite par cette nature. Une fois que j'avais fait ça, je pouvais commencer à réparer ce que j'avais cassé, à recoudre les vêtements qui étaient usés, à soigner mes gelures et à écrire mon journal. Et le moment de l'écriture était vraiment un moment que j'adorais et j'avais un peu un sentiment magique d'avoir une relation directe entre mon crayon, parce que le stylo aurait gelé. J'écrivais avec des gants, parce que la paume de ma main gelait sur la page de mon cahier, mais avec une espèce de lien magique entre mon crayon et l'écriture. Ça ne passait pas par une formulation orale. À la limite, je ne sais même pas si je pensais réellement à ce que j'allais écrire. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, voilà, de direct. Et ça, c'était vraiment un moment que j'adorais.
Vient la période de l'endormissement, j'imagine. Comment on dort? Est-ce qu'on passe des bonnes nuits, des mauvaises nuits, des nuits où on ne dort pas? Est-ce que c'est variable?
Quand vous êtes seul, vous êtes toujours obligé d'être en alerte. Je veux dire, vous êtes seul à pouvoir faire face à une tempête, à quelque chose qui se passe et qui risque de vous mettre en danger. Donc, les deux premières heures, j'étais tellement épuisée que je plongeais dans une sorte de coma et je dormais vraiment très profondément. Et après, c'était une alternance de une demi-heure pour grelotter, une heure pour dormir, une demi-heure pour grelotter, etc. Et tout ça qui durait à peu près 6 heures. C'était pas quelque chose qui était viable pendant très longtemps, mais pendant 3 mois, c'était jouable. Par contre, au retour, il m'a fallu des mois et des mois pour récupérer, parce que c'était profondément usant et fatigant. La première traversée a été une bagarre où je dirais que c'était pas évident que je prenne le dessus. Et cette conscience a fait que j'étais complètement dans une situation de survie et qu'il y a eu peu de moments où j'ai pu m'échapper de ça. Et je suis arrivée au pôle sud hyper limite. La base américaine ressemble à un immense dôme qui est en fait une sorte de mini-ville qui fonctionne en totale autonomie. C'est la base la plus importante qui existe en Antarctique. Il y a une centaine de personnes qui travaillent pendant l'hiver et à peu près 300 personnes qui travaillent pendant l'été. Normalement, on n'a pas d'accès à la base. C'est très secret, c'est un côté très nationaliste. Ils sont venus m'accueillir vraiment. Ils sont venus, en fait, ils ont anticipé mon arrivée au pôle sud et ils m'ont accompagné sur les derniers mètres jusqu'à cette fameuse bulle. Et quand je suis repartie pour ma deuxième expédition, 3 ans après, je suis repartie du pôle sud et cette fois j'ai été accueillie à l'intérieur avant même que je ne réussisse quoi que ce soit et ils m'ont accompagné sur les premiers mètres au départ de la base.
Ce deuxième voyage que vous vouliez « parfait », entre guillemets, comment il s'est déroulé? C'était la même distance à peu près, le même temps de traversée que la première?
Ah non, non, là c'était vraiment un autre enjeu. La première traversée, elle faisait à peu près 1400 km. La deuxième traversée, elle en faisait à peu près 3000. Le traîneau faisait 150 kg à peu près. Pour ma première expédition, il faisait entre 60 et 70 kg. Donc c'était le double de ce que j'avais l'habitude de faire. L'inconnu était immense. Personne ne connaissait cette partie du territoire. Et donc l'appréhension, vous avez le sentiment quand même au début de vous jeter dans la gueule du loup. Je veux dire, quelque part, il y a cet horizon qui est sans fin, dans lequel il faut avancer, sans repère, sans protection, avec juste votre capacité à vous créer une sorte de bulle dans lequel vous allez pouvoir vivre au milieu d'un monde qui ne veut pas de vous. Puis après, il y a des moments où vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? Pas de doute, mais de désespoir par rapport à cette conscience de n'être rien, de pouvoir être balayé comme un fétu de paille, et pourtant d'avoir une sorte de lueur au fond de moi qui ne m'a jamais quittée, qui me fait dire que je sais pourquoi je suis là. Enfin, je sais. pas consciemment, mais inconsciemment, j'ai une bonne raison d'être là. Et je me suis permise, à certains moments, de m'asseoir sur mon traîneau, de hurler de peur, de désespoir, avec les larmes qui gelaient sur mes joues. Mais en fin de compte, ces moments de désespoir que j'arrivais à exprimer me libéraient de ce qui était la preuve que je n'étais pas grand-chose. Et j'en ressortais plus forte.
Au fur et à mesure du moment où le terme approchait, est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, j'ai réussi? Est-ce qu'il y avait une dimension d'exploit de...
Jamais de dimension d'exploit. Pour moi, ça n'a jamais été un moteur. J'étais consciente d'une performance, encore que sur le terrain, bon, c'était pas vraiment mon problème. L'exaltation que je ressentais était plutôt liée au fait d'avoir un sens très très profond de poser les pieds là où personne ne les avait jamais posés. De voir ce que personne n'avait jamais vu. Elle a duré beaucoup plus longtemps que la première. Hein. La première, elle a duré 58 jours. La seconde, j'ai mis 73 jours. Donc c'est vrai que c'est la seconde expédition, j'ai vraiment eu le sentiment d'aller au bout de ce que j'étais capable de faire. Et c'est la raison pour laquelle, après cette expédition, j'ai dit que je m'arrêterais. Je ne ferai plus d'expédition de ce type, et en particulier que je ne retournerai pas à l'Everest. Je me dis que la seule chose essentielle, c'est cette conscience de la liberté que l'on a d'être, qui que l'on soit, et quelle que soit la société dans laquelle on est obligé de vivre. Et cette prise de conscience, cette liberté, en fait, elle est source de créativité, qui fait que, en utilisant les moyens nécessaires, c'est pas facile. C'est vrai qu'il faut se battre, mais voilà, on peut faire de sa vie quelque chose d'unique. L'idée d'être aventurière ou explorateur, c'est d'aller vers l'inconnu. Donc on revient à l'idée de départ dont on a parlé au début, c'est la curiosité. Donc moi je l'ai exprimée sur le terrain pendant très longtemps, mais maintenant j'ai envie de l'exprimer d'une manière totalement différente. Et on peut exprimer ces mêmes sentiments pour les autres et avec les autres.
Ça veut dire que les autres c'est une aventure aussi?
Ah bah complètement.
Dans le prochain numéro des Explorateurs, nous suivrons le conseil de Laurence de la Ferrière et repartirons à l'aventure. Nous quitterons le froid, la glace de l'Antarctique, pour nous enfoncer dans les hautes profondeurs de la Méditerranée avec un explorateur de la zone crépusculaire. Je vous laisse vous faire à cette idée. Merci à Rémi Fière, Roland Richard et Théo Boulanger qui m'ont aidé à préparer, produire et réaliser ce podcast.